hein, parce qu'ils tombent depuis déjà pas mal de temps, dans les pays nordiques en particulier. Hein, j'ai vu pas mal de vidéos, je ne sais plus si en Suède ou en Norvège, enfin un peu partout.
Il se passe plein de choses en Norvège.
Voilà, ouais, non, mais c'est la folie. Il joue partout parce que déjà, il a accompagné... c'est pas Errol Bernstein, mais Jimmy Burns. Il a accompagné Jimmy Burns en tournée. Il a produit son album aussi. Hein. Voilà, donc il tourne énormément. Aux États-Unis aussi, j'ai regardé. Il joue pas mal aux États-Unis. Aux Legends, en particulier à Chicago, régulièrement. Donc c'est un bonhomme qui est jeune, qui doit avoir une trentaine d'années, un maximum. J'ai pas regardé sa date de naissance, mais il doit avoir une trentaine d'années. Et il a déjà un beau parcours. Donc il a démarré la musique au Texas, Austin, Texas, et il est monté à Chicago après, c'était son rêve, et donc jouer avec les plus grands, et en particulier aux Legends, et je trouve qu'il a bien réussi.
Comment est-ce que tu l'as découvert, Dave Herrero? On t'a envoyé un album? Tu as croisé sur Internet des liens?
Non, c'est son tourneur français, hein, Fred Juglas, donc de Les Trois Tours, hein, qui nous contacte assez régulièrement, avec qui on aurait dû faire Big Daddy Wilson au début de Big Daddy Wilson en France. Hein. Ouais. Puis ça c'était justement pour le BBC, et puis ça s'était pas fait, c'était la première édition zéro du BBC.
Ah ouais,
voilà, on l'édition a loupé zéro. Ça. Oui, vous avez loupé l'édition zéro, et ça jouait entre Big Daddy Wilson et Jimmy Burns, tu vois.
D'accord.
Mais c'était l'édition zéro. Ouais. Et donc bah, on reste en contact, hein, avec Fred régulièrement, qui nous propose des choses, hein. Il a souvent des choses intéressantes. Et donc Dave Herrero, bah écoute, je lui ai demandé d'envoyer l'album, j'avais regardé les vidéos, ça me paraissait génial, et l'album, je suis vraiment tombé... Ouais, vraiment, j'ai trouvé ça génial, quoi. Ça sonne bien, c'est à la fois moderne, mais vraiment bien dans les racines du blues. Hein, tu te demandes pas ce que t'écoutes. Vraiment très très bien, très bon guitariste. Et ça se vérifie. J'ai mis en ligne des vidéos où il fait un solo derrière Joe Louis Walker en Turquie, je crois que c'était. Et Joe Louis Walker le fait monter sur scène et lui laisse prendre un solo. Et bon, c'est extra, quoi. Hein. Donc voilà, un grand bonhomme en devenir, il me semble.
Tu nous mets l'eau à la bouche. On va écouter, ouais, Dave Herrero and the Herrero Brothers Band, l'album Corazon, qui est sorti il y a 3 ans, l'album dernier en date, hein, tu me disais.
Oui, c'est ça, bah, à ma connaissance, ouais, il y a 3 ans, très bel objet. Ouais.
On va écouter Loverman, Dave Herrero.
My heart is on the rails. I hear your whistle screaming. I'm sleeping on a bed of nails. The shadow of your face haunts me in my dreams. locks on your door, babe, but you refuse to let me in. I thought your second come could be our saving grace.
Loverman, donc voilà, Dave Herrero, découverte de cet artiste à travers ce premier titre. On en écoutera un second tout à l'heure, Jacques. Tout de suite, la réaction de Philippe, qu'est-ce que tu penses de cet artiste? Est-ce que tu le connaissais déjà avant d'avoir l'idée de faire sa première partie?
Non, non, moi, je ne connaissais pas.
Non,
non, mais je suis très content parce que justement, j'aime bien le fait qu'il mêle au blues d'autres influences, un peu plus americana, plus ouverte visiblement. Il a même croisé le fer avec des gens, parce que je regardais sa bio, il est incroyable ce gars-là. C'est le petit-fils d'un chef d'orchestre, enfin il a une carrière incroyable. Il a joué avec Nick Curran et des gens qui sont plus vers le rockabilly, la country. Mm-hmm. Et comme nous, on propose un blues un peu ouvert comme ça, plus acoustique, on va être enchanté. Moi, je suis très content, ouais. Je suis très excité à l'idée d'ouvrir pour ce grand monsieur-là.
Voilà, Dave Herrero avec Gumbo Gasoline en première partie. Jacques, c'est l'affiche que tu as concoctée avec l'asso Backstage pour cette 7e BBC Blues Club, une collaboration qui se poursuit avec le BBC. C'est l'occasion pour le BBC de diffuser des concerts de blues, parce que c'est pas si souvent non plus, hein, je veux dire...
Ouais, effectivement, même s'ils en programment un peu de temps en temps. Et puis ouais, surtout, je dirais, l'originalité, c'est l'esprit club, tu vois. Mmh. Parce que les salles de musique actuelles ont pour particularité souvent de laisser les spectateurs debout. Ouais. Et c'est vrai que là, on a la chance, hein, il faut le répéter, on est vraiment en configuration club, c'est-à-dire des rangées de chaises devant la scène et puis des tabourets où tu es installé vraiment sympa, où tu peux boire ton verre, prendre ta petite assiette.
Bougies, avec
les assiette, bougies et ouais. Tout. Donc ça fait une salle qui est magnifique, je trouve que ça fait une salle qui est vraiment sympa comme tout, magnifique. Des conditions de son et de lumière qu'on connaît au BBC qui sont vraiment particulièrement bonnes, avec des techniciens qui à chaque fois font vraiment les efforts nécessaires pour que ça se passe très bien pour les musiciens, qui sont hyper sympas. Donc vraiment, oui, nous on fait ça vraiment avec beaucoup de bonheur. Ouais.
Tu sais qu'on écoute sur internet un petit peu partout l'émission. Il y a notre ami Alain Jalbert, Jalbi, qui nous met, tout simplement, c'est un grand connaisseur de blues en France, qui a l'émission Maxwell Treat là sur le Sud-Ouest, qui nous met Dave Herrero, vu à toi avec Félix Reyes, le top. Voilà. Puis quand Jalbi dit le top, c'est vraiment le top, quoi.
Ouais, mais tu vois, je le crois, enfin je le perçois comme ça. On peut toujours se tromper, hein, tu sais bien, mais c'est vraiment l'impression que j'ai, tu vois. Je trouve qu'on a touché là une petite perle.
Alors voilà, donc 7e BBC Blues Club le vendredi 29 mai prochain. Je crois que tu es venu avec deux places à faire gagner, Jacques.
Oui, absolument, hein, c'est normal, sympa. C'est et cool. Voilà, pour toi et pour les spectateurs et pour tout le monde. Hein, voilà, deux places, c'est vrai qu'au BBC, on ne peut pas offrir beaucoup puisqu'on est limité en nombre de places. Voilà.
Et eh ben voilà, on va pouvoir téléphoner pendant le morceau qui suit, hein, tout à l'heure. Je prends pas les appels maintenant, on va juste pouvoir téléphoner à la première seconde du prochain disque, 02 31 94 66 66. Soyez l'un des deux premiers à appeler. Et vous aurez votre place au prochain BBC Blues Club, vendredi 29 mai. C'est dans pile 13 jours. Hein, ça commence à frémir, les réservations, j'ai envie de dire.
Ah oui, complètement, oui, certainement. Oui.
Et puis ça va encore être du guichet fermé, comme d'hab, non?
Ah bon, on espère bien, hein, voilà. On verra bien.
Voilà. Merci Philippe d'être intervenu dans Sweet Home Chicago.
Merci à toi, merci beaucoup.
Et puis, longue vie à Gumbo Gasoline, voilà, avec tous les autres concerts et les autres projets que tu as, Philippe.
Merci.
Et puis merci encore à Jacques qui vient à chaque fois à nous parler de l'actu de Backstage, parce que c'est la cheville ouvrière du blues à Caen en termes d'organisation.
Oui, c'est super important, si tu veux, on le fait pour tous les concerts, sur le maximum de radios qui veulent bien nous accueillir. Je pense que c'est important, justement, nous, en tant qu'asso, on peut se permettre de faire ça, ce qui n'est pas le cas d'un programmateur de salle en général, tu vois. Et donc, oui, ils vont de présenter ces spectacles, parler des musiciens, pour moi, c'est vraiment fondamental.
Si vous êtes dispo le samedi d'avant, le 23 mai, Philippe, Jacques, voilà, je vous en parle en direct. Vous avez Shana Waterstorm au Souboc, à Coville, hein, si ça vous dit de venir, il y a pas de souci. En tout cas, voilà, échange de bons procédés. À très bientôt, Philippe, Jacques.
À bientôt,
merci,
Marc.
À bientôt.
Voilà, vous appelez au 02 31 94 66 66 pour gagner votre place au prochain BBC Blues Club. 02 31 94 66 66. Dave Herrero, Cheating Blues.
She looked me in the eye. She said, boy, cheating on me. She said, boy, you're cheating on me. Heaven for the feeling. This could be any of you, any of you and me. To you, babe, I know our bond is honesty. Swore I'd never lie to you, babe. I know our bond is honesty. Can want and his mind can go astray. Gotta do
Dave Herrero, Cheating Blues. Voilà, Dave Herrero, vous pourrez le voir sur scène vendredi 29 mai prochain, ouverture des portes 20h, c'est au Beatband Café à Hérouville-Saint-Clair avec Gumbo Gasoline en première partie. Prix des places 15€ en prévente, 18€ sur place. Et puis il y aura pas de vente sur place à mon avis parce que ça va être complet. Merci encore à Jacques et à Philippe pour cette petite interview autour de cette date phare. Il y en aura une huitième avant Noël. Jacques vient de nous le confirmer. BBC Blues Club. J'attends toujours vos coups de fil. J'en ai un pour l'instant. Voilà, une personne qui a gagné sa place. Et puis si vous faites le 02 31 94 66 66 durant le morceau qui vient, la deuxième place sera pour vous. On poursuit avec Little Bob juste après ce titre. Ce sera l'interview. Là encore aussi en direct. Sur le 666 et au téléphone depuis Le Havre avec Little Bob. Can you hear me? Voilà, Little Bob, extrait de ce nouvel album qui s'appelle Holding. Salut Bob, comment vas-tu?
Je vais bien. Ah, je vais bien et j'attendais ton coup de fil.
Voilà, super. Un petit peu plus de 14h15 à l'écoute du 666. Nouvelle interview de Little Bob à l'occasion de la sortie de cet album, Little Bob Blues Bastards. C'est devenu ton groupe principal, dis-moi Bob.
Oui, il n'y a plus que celui-là. Et c'est pas plus mal. J'aurais pu continuer avec les deux, mais c'est un boulot de dingue, et puis déjà, là, ça suffit, tu vois. Et puis, c'est ce que j'aime avant tout, quoi. J'ai des musiciens exceptionnels, c'est super.
On va en parler de tes musiciens, parce qu'effectivement, ils se démarquent bien, là, notamment sur ce disque. L'aventure Little Bob Blues Bastards, elle démarre vers 2011-2012. En février 2012, il y a un premier concert au Subok à Coville, et je vais te dire qu'on n'en est pas peu fiers dans la région. Et qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi, depuis un peu plus de 3 ans d'existence des Bastards?
Bon, on a beaucoup tourné, on a enregistré un album qui est sorti à l'été 2012, qui est sorti pour octobre 2012, et donc bon, parce qu'il faut toujours un disque pour pouvoir tourner, pour présenter ce qu'on fait. Alors le disque a été fait avec disons d'une manière très rapide, on l'avait fait live en studio, mmh. au Havre, au studio Honolulu, et on pouvait pas faire autrement. Il y a beaucoup de reprises, j'avais pas eu la possibilité, pour des raisons familiales, d'écrire beaucoup, donc j'avais écrit que trois titres, j'avais repris deux vieux à moi,
oui.
et le reste ce sont des reprises de blues, mais je voulais aussi, par rapport à ces covers de blues, montrer aussi mon appartenance aussi au blues à ma manière.
Voilà.
Voilà, et c'est pour ça que j'avais repris du... Who's Been Talking,
oui,
Pauline Wolf, et puis tous les autres, quoi, il y en a tellement.
Voilà, ce sont des artistes qui t'ont inspiré, même dans ton répertoire rock, tout au long de la story, etc. Et puis que tu continues à jouer sur scène, de toute façon, les titres du premier album.
Oui, bien ah. sûr, puis là, vers la fin de l'année, je vais fêter le 40e anniversaire, puisqu'il y a 40 ans, au mois de novembre, je sortais mon premier 45 tours.
Ouais.
En fait, on ne sait plus si c'est entre 2015 et début 2016, avec le premier album High Time qui est sorti en 76. Mais bon, sur High Time, par exemple, il y avait You'll Be Mine de Howlin' Wolf.
Qui était déjà un blues.
Ah bah, voilà. c'est Howlin' Wolf, c'est un des plus grands. Après, c'est suivant les goûts. Hein. Moi, j'aime bien le blues du Delta. Celui qui a les pieds dans le marais, dans la boue, et avec les crocodiles qui viennent te mordre les chevilles.
Les alligators.
Ouais, les alligators, oui. Ouais. Ce sont des alligators.
Et donc voilà, c'est un petit peu une forme de retour aux sources quelque part. Alors 40 ans après, High Time. Tiens, d'ailleurs, petite question de la part d'un ami qui fait de la radio ici, qui s'appelle Rodolphe. Est-ce que tu continues à jouer High Time de temps en temps sur scène, ou est-ce que tu le faisais encore récemment?
On l'a fait jusqu'à... On le fait pas... On l'a joué très rarement, c'est vrai, mais on va le remettre au goût du jour. On va se le rejouer un peu à l'ancienne, tel qu'il était sur le premier album.
D'accord.
Parce que après on faisait des versions comme on était très speed.
Mmh.
On jouait de plus en plus vite. Et High Time était devenu une espèce de fusée. Et qui était sympa, hein, mais on va le rejouer tel qu'il était, parce qu'il était plus dans l'esprit rhythm and blues de l'époque.
Alors, ce nouvel album, Bob, qui s'appelle Howling, c'est bien sûr encore une fois en hommage à Howlin' Wolf, qui est un des bluesmen qui t'a peut-être plus marqué que les autres, je ne sais pas.
Oui, lui, en particulier, à cause de sa voix, à cause du fait que j'étais un peu un voyou, tu vois.
Ouais.
Bon, et puis, évidemment, Robert Johnson, Muddy Waters, John Lee Hooker, pour tous les plus connus, si tu veux, mais aussi les très vieux, Blind Lemon Jefferson. Mais après, moi, le blues, pour moi, il a un esprit très large. Tu vois, il va des premiers bluesmen des années 30 à aujourd'hui, Tom Waits, Chucky Wise, des gens comme ça. Qui utilisent, ou même John Spencer Blues Explosion, ils utilisent le blues d'une autre manière. Tu vois?
Oui, il y a je ne sais pas combien.
Et Captain Beefheart sur la route aussi, tu vois.
Il y a je ne sais pas combien d'écritures et de relectures du blues. C'est une musique universelle, c'est rien de le dire. Il y a pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un S au mot blues. Hein. Il y a les blues, les Américains disent les blues. Hein.
Oui, bien sûr. Moi, il paraît qu'on qualifie le mien de dirty blues.
Et pourquoi pas?
Ouais, mais en fait, il est bâtardisé, mon blues, parce que, évidemment, je suis rocker dans l'âme, mais même dans le rock'n'roll, j'ai toujours préféré même si j'aimais beaucoup Cochrane, évidemment, Presley, quand j'étais Jerry Lee Lewis, mais pour moi, les meilleurs, c'était Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, tu vois.
Mm.
Et ça m'a toujours inspiré, donc il y avait du blues dans ces gens-là, une part de rhythm and blues et de blues. Et moi, quand je suis un fan des 60s au départ, quand j'ai commencé avec mon premier groupe, les Apaches,
oui.
Et ben je suis parti là-dessus, quoi. Et en fait, en écoutant les groupes que j'aimais au début des années 60 et jusqu'au milieu des années 60, eh bien, tous étaient inspirés par les bluesmen.
Bien sûr, bien sûr. À commencer par les Rolling Stones, qui sont les premiers.
Les Stones,
hein.
Oui, les Animals, ouais. Et puis après tous les autres. Oui. Et donc, un peu moins certains groupes pop, plus pop anglais, quoi, que j'aimais bien quand même. Mais bon, moi, je me suis dit, tiens, ces gens-là écoutent du blues, ben faut que j'aille en écouter aussi.
C'est clair.
Voilà. Tiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tomber sur eux. Le premier que j'ai écouté, c'est Howlin' Wolf.
Voilà. Tiens, le voilà, Howlin' Wolf.
Ouais, je l'entends de loin.
Avec sa voix inimitable, quoi. Marque de fabrique, Smokes Like Lightning. C'est un morceau que tu as repris, ça, Bob?
Non, j'ai par contre. Il m'est arrivé d'emprunter les riffs.
Oui,
il y avait Wildcat Blues par exemple, sur Libero,
ouais.
qui était déjà inspiré par le blues, tu vois, c'était en 2001 Wildcat Blues.
Ouais, 2001, ouais, le début de ta carrière Dixie Frog à
voilà,
peu près.
Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même avant Shadow Over que j'ai coécrit avec JJ Holiday des Imperial Crown.
Oui. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que ça n'existe plus, les Imperial Crown?
Écoute, j'étais les voir, j'étais en Hollande la semaine d'avant,
ouais.
Et au festival Moulin Blues Festival à Ospel.
Ah oui, Moulin Ospel, oui, bien sûr.
Voilà, dans le Lambourg, ouais. Et il y avait le petit-fils de Harold Burnside.
Oui.
Et il était entouré de Jimmy Wood et de JJ Holiday.
Ah la vache, d'accord.
Et c'est eux qui ont fait le show, en fait.
Ça te fait donner, hein, ouais.
Voilà, et il y a une photo sur mon Facebook assez incroyable que ma douce Mimi a pris.
Salut Mimi, si tu nous écoutes.
Ouais, JJ il est venu, il était sur scène, j'étais de son côté, j'étais monté sur une balustrade pour appuyer sur la scène. Et il est venu se mettre à genoux devant moi pour faire un beau solo, tu vois.
Carrément, ouais.
Et ça, ça faisait chaud au cœur. Mais je vais le faire venir, JJ, je vais le faire venir pour des concerts anniversaires. Je sais pas encore quand, les dates. Parce qu'évidemment, tout ça, quand je fais venir des amis, il faut payer les voyages et tout ça. Donc, c'est un budget.
Ouais. Et les Imperial Crowns, moi, je me souviens en tout cas d'une interview que tu nous avais accordée sur le Festival de Cahors, je crois que c'était en 2003.
Ouais.
Et tu nous avais parlé de ce groupe, on était plusieurs à te poser des questions, et tu nous avais dit, mais putain, s'il y a un groupe à faire dans un festival, ce sont les Imperial Crowns. Et ils ont fait Cahors l'année d'après.
Ouais.
Je me souviens, à ce moment-là, ça devait être le genre de truc qui était carrément borderline, mais... Alors, blues et rock à la fois, mais pas blues rock, c'est encore autre chose que...
Non, pas blues rock, comme moi, je fais pas du blues rock.
Non, voilà.
Voilà, borderline, exact, c'est le mot exact. Et en fait, ces gens-là sont des fans de Delta Blues, comme moi.
Oui.
Pour ça qu'on se retrouve si bien. Et ce sont des... En plus, c'est un groupe de rock'n'roll de voyous, quoi.
Bah tiens, écoute bien, Bob.
Ah.
Lil Def.
Ah, Lil Def, c'est formidable.
Ouais.
Écoute le riff.
Wouh ! Ah ouais.
Ça fait JJ. Lil Def.
Roll. Et là, tout de suite, avec cette gueule de Stone qu'il a, et puis le riff de guitare derrière, putain, mais voilà, on est dedans. C'est du live, hein, c'est une version live qu'on écoute en ce moment.
Ouais, c'est un live, hein, ouais. Mais tu sais, j'étais sur scène avec eux, j'ai fait... à chaque fois que j'étais les voir, que ce soit à Beauvais ou même à Anvers, au festival de La Traverse, tu sais...
Oui, bien sûr, à Cléon.
La Traverse, je suis pas monté, je les ai présentés sur scène. Oui. Mais c'est mes potes, quoi. Et JJ, il a quand même joué avec moi sur Rendezvous in Angel City.
Oui.
Sur Lost Territories.
Oui.
Sur Blue Stories. Et à partir de Lost Territories, il est venu en tournée avec nous en France, tu vois, à l'époque. Et donc, voilà, pour moi, c'est formidable. Et en plus, à même un type comme Jimmy Wood, le chanteur harmoniciste, tu vois, à chaque fois que j'arrivais, qu'il m'appelait pour monter sur scène, c'est moi qui chantais, et lui, il jouait de l'harmonica pour moi, tu vois.
D'accord.
Vraiment, pas égoïste, partageur de la scène et respectueux de qui il avait à côté de lui. Donc ça, c'est formidable.
Bob, on va écouter un autre truc. Allez, je te demande juste de réagir à chaud, voilà. Quelques notes, là, d'accord?
Ok.
Et là, ça fait pas loin de 40 ans, tu l'as dit, hein.
Ah ouais, 39 ans, ouais. Ouais, 39 ans. Ans, au mois de mai, il est sorti au mois de mai. Voilà. On avait fait, le jour de sa sortie, on avait fait la première partie de Eric Burdon à l'Olympia.
Putain, Eric Burdon des Animals, d'accord.
Ah, on était pas malheureux, quoi. L'album sortait, on faisait la première partie de Eric Burdon. Et puis, sauf qu'il y a encore une anecdote, mais il y en a plein sur mon bouquin, hein, des anecdotes.
Oui, bah bien sûr.
C'est qu'on était managé par le management de Ange.
Ouais.
Et comme le groupe qu'ils avaient en première partie, ils jouaient à Bruxelles, Ange, ce jour-là. Comme le groupe de Ange, le groupe qui faisait la première partie s'est désisté parce qu'ils avaient trop les jetons, ils jouaient à la fac de droit.
D'accord, ils avaient trop les jetons de le faire.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, il nous a appelé, il dit, mais attends, je suis à l'Olympia, là, je vais regarder Eric Burdon, faut pas déconner. Il me dit, non, quand t'as fini le show, t'as plus bagage et t'arrives de Paris, tu passes par Valenciennes, il y en a pas si longtemps que ça. Après, moult problèmes et choses à régler. On est arrivé sans notre matériel parce qu'il a été arrêté à la frontière. Et on est arrivé pour jouer sur le matériel de Ange et la sono est tombée en panne. Et ça tournait en baston général dans la fac de droit ou de médecine de Bruxelles.
D'accord.
Et on était là dans la loge, on s'est dit, putain, on serait pas mieux à écouter Eric Burdon qu'être là dans ce bordel.
Alors, il y a des souvenirs, forcément, qui émaillent toutes ces années de carrière. Bientôt 40 ans de carrière avec Little Bob Story, mais encore un petit peu plus avec les Apaches. Ta toute première formation, Bob, c'était...
J'ai écrit un titre sur le nouvel album. Hein, et en fait, les Apaches, c'était le groupe de mômes. C'était une bande de potes. On avait décidé de faire un groupe sans savoir si on était bon ou pas.
Oui, mais ça, de toute façon, on sait qu'après, j'ai envie de dire.
Voilà, mais on savait même pas jouer, il n'y en avait pas un, donc on s'est débrouillé, quoi. Ouais. Et en fait, on était amateurs. Au lieu de jouer aux billes ou de jouer au foot, ben, on allait faire de la musique, quoi.
Et donc, ça fait quoi, pas loin de 50 ans, finalement, maintenant.
Oh, oui, déjà pas, c'était en 63-4.
Voilà, et ben écoute, 63, ça fait un peu plus d'un demi-siècle de carrière finalement.
Tu nous passes le morceau à Patches ou quoi?
Ah ben on peut faire ça, écoute, on va aller chercher ça, il n'y a pas de problème. Tout pendant ce temps-là qu'on discute, c'est vrai que cet album dont on parle, qui est d'ailleurs disque du mois pour Sweet Home Chicago, on en écoute plein d'extraits au cours de ces émissions du mois, cet album Howling qui a une pochette quand même, voilà, on l'a vu une fois, on l'oublie pas, c'est le Havre en bas.
Ouais, c'est le Havre, hein, vu l'entrée du port, voilà. Et la nuit, quoi, donc on voit aussi un petit peu les torchères sur la droite du pétrole, et en fait, on voulait un soir de pleine lune, et avec des gros nuages entre deux, ouais. Tu vois.
Ah bah là, les nuages, on les a, et la pleine lune, on la voit bien également, elle est tout en haut.
Ouais, ben c'est pour ça que...
Magnifique.
Et puis le fait de Howling, c'est... Bien sûr, il y a du All in World dedans, mais Howling, c'est parce que le monde hurle en ce moment, tu vois. Faut le dire, on essaye de donner du bonheur aux gens quand on est sur scène, mais... Parce que, par ailleurs, si tu écoutes les journaux télévisés,
de
toute façon, il y a des guerres partout.
Il y a des guerres, il y a des réfugiés en ce moment.
Il y a des réfugiés qui, sans être étrangers, peuvent être... Tu sais, on peut être réfugié soi-même, hein, avec tout ce qui va de travers dans la vie. Mmh. Et des guerres partout, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Et dans cet album, je parle aussi sur Only Liars, des menteurs qui tirent les ficelles dans ce monde.
Oui. Ça c'est quelque chose qui te tient à cœur. Comment dire, utiliser ta musique, utiliser la voix que tu as pour te faire le porte-parole quand même parfois de certaines choses qui te révoltent.
Bah, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui me révolte pas à part la musique. Ça me révolte. Il y a le pépère qui vient de partir. Hein,
Oui, je voulais t'en parler, bien sûr. Parce forcément.
Baby King est parti, mais il est âgé. Qu'est-ce que tu veux? C'est malheureusement, c'est ça. Il y en a qui sont partis beaucoup plus tôt. Et non, ce qui me révolte, bah, c'est que rien n'est fait pour dans le pour l'homme. Tout est fait pour le pognon, tu vois. C'est l'argent qui gère le monde. Et donc ce sont les gros financiers qui tirent les ficelles, même pas les politiciens.
C'est Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de nouveau relativement, ou il y a déjà 20, 30, 40 ans, c'est
non, c'était le cas? Non, il y a eu ça à chaque fois qu'il y a eu des grosses crises, comme celle américaine des années 30, là, tu vois. Et puis, mais là c'est quand même là... Et ça arrive à toucher tout le monde, quoi.
Ça j'ai envie de dire, c'est comme ça à chaque fois qu'il y a une crise, et les extrêmes remontent, enfin, voilà.
Bah oui, mais c'est quand même la crise, c'est que pourquoi s'enrichir autant? Une fois qu'on est riche, on est riche.
Oui, mais alors voilà.
Et la puissance, ils cherchent toujours plus de puissance, plus d'avoir, et au détriment du droit humain, quoi.
Ouais. Je pense pas qu'à certains niveaux on perçoive ça. Je veux dire, une fois tu parles de riches, il y a riches et riches, il y a les millionnaires, il y a les milliardaires. Je veux dire, il y a aucune raison que ça s'arrête quand ça monte, et de toute façon les extrêmes sont toujours de plus en plus éloignés, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches. Où va-t-on, enfin, comment faire?
Eh ben c'est sans tenir compte, toi, les gens qui s'enrichissent, moi j'ai rien contre les gens qui deviennent riches, hein. S'ils l'ont mérité, ils ont travaillé pour ça, ou simplement ils ont hérité et puis ils ont du blé. Mais c'est ce que j'ai du mal à comprendre, mais je suis peut-être complètement utopiste, mais c'est pourquoi vouloir, par exemple, fermer des usines qui marchent parce qu'elles ne rapportent pas assez, alors qu'on est déjà plein d'argent. Et on ferme des usines, on ferme les usines sans penser aux gens qu'on met au chômage.
Exactement,
sans penser aux familles qu'on va jeter dans la rue. Sans penser aux mômes qui n'ont plus... quel espoir on est en train de laisser aux mômes, là, aujourd'hui?
Mais je crois que de toute façon...
Rues, là, c'est difficile, hein.
Non, c'est clair. Il y a bien sûr le fait, tu disais, t'as rien contre des gens qui s'enrichissent, du moment que bah, voilà, c'est le fruit de leur travail, à partir du moment où c'est un outil de production, d'accord, mais à partir du moment où c'est uniquement la bourse, et puis, on va dire, les dividendes aux actionnaires, parce qu'on parle quand même beaucoup de ça, il y a les retraites chapeaux pour les grands patrons, on pourrait en parler longtemps, mais je pense que voilà, ce sont des choses qui deviennent complètement indécentes, et qui, ouais. Et c'est tellement gros que ça passe, j'ai envie de dire.
Je crois que la décence, en fait, ces gens-là, c'est la pire des mafias. Tu vois, c'est une mafia internationale de gens qui dirigent le monde. Ils dirigent les politiciens comme des marionnettes. Évidemment, il doit y avoir quelques politiciens qui sont un peu en dehors de ça, mais qui sont quand même des enfoirés. Excusez-moi. Mais des mecs comme Poutine, ou les Chinois, ou le Nord-Coréen, c'est des dingues. Tu vois. Mais tout ce qui est occidental, et même maintenant capitaliste, donc aussi bien en Asie, en Inde, que dans l'Amérique du Sud. Voilà, quoi. Comment peut-on permettre que Boko Haram continue à tuer, à piller, à violer? On peut pas le foutre en l'air, ce mec-là?
Ben, le problème, voilà, ces mecs-là, comme tu dis, parfois, ils vivent sur des territoires en dessous desquels il y a du pétrole. Et il paraît que ça compte encore, le pétrole. Et je pense que... Est-ce qu'on va intervenir de la même manière au Burundi, où il n'y a absolument rien au niveau des richesses souterraines?
Ah ben non.
Que, par exemple, on l'a fait pour le Koweït? Enfin, on peut se poser des questions comme ça, mais je pense que la réponse, elle est évidente. À partir du moment où il n'y a pas de richesses intrinsèques... Tu vois, il y avait une petite image que j'ai vue il n'y a pas très longtemps circuler sur internet, où tu vois un Européen arriver en Afrique, prendre un baril de pétrole, le ramener chez lui, et ensuite t'as les Africains qui arrivent en bateau, et le mec il les repousse, quoi. C'est ce que sont en train de faire les Thaïlandais, par exemple, avec les gens du Bangladesh. C'est ce que on se demande si on va pas finir par le faire avec tous les gens qui arrivent en Italie, en Grèce.
Ah, tu vois bien. Quand tu vois l'île de Lampedusa. Hein.
Voilà. Donc d'un côté, on se dit on peut pas.
Port d'accueil, mais c'est dingue, et tous les gens qui crèvent sur la route. Mais comment? Parce que chez eux, on n'arrête pas. D'abord, ils fuient les guerres, quand même, le danger, la famine. Et bon, là, on est mal barré, là. De quoi on parle dans ton émission de musique?
Mais oui, mais attends, tu sais, la musique, c'est aussi le support de toutes ces révoltes-là, quand même. Attends,
et en plus, ça n'est pas faire de la politique politicienne, là, tu vois?
Non, mais c'est ce qui s'appelle faire de la politique.
De ce qui se passe.
Bien sûr, la politique, c'est ça.
Voilà, et c'est une honte, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, je ne sais pas quand et comment, mais il est intérêt à trouver des solutions parce que sinon ça, on va.
Bah, en même temps, pour conclure sur le chapitre, Bob, si à bout d'un moment il n'y a pas des gens comme toi et qui prennent le pouvoir et qui disent bon bah de toute façon les politiciens ils ont rien pu faire. Ça sera toujours d'autres politiciens qui vont les remplacer, et puis il n'y a aucune raison que le système change finalement.
Oui, mais. Voilà, donc. Je ne sais même pas quoi faire. Est-ce qu'il y a des gens assez altruistes pour pouvoir penser faire le bien autour d'eux, essayer de s'occuper de,
bien sûr,
du bien-être de l'être humain. Ouais. Voilà.
Bien sûr qu'il en existe. Et ça fait partie de ton message. Parfois, tu prends la parole sur scène, tu ne te contentes pas d'aligner les morceaux, et puis, tu dis ce que tu penses.
J'explique ce qu'il y a dans les chansons.
Oui.
Et des fois, je me dis, je parle un peu trop. Et après, quand je descends toujours, signer mes disques, les affiches et tout ça, au merchandising, tu vois. Là où les gens viennent parce qu'ils aiment avec les gens qui sont sur scène. Parce que être sur scène et partir juste après, je trouve ça un peu dur. Alors des fois, si je suis vraiment naze complet, je peux pas le faire, mais j'accepte qu'ils viennent dans les loges. Et puis là, à ce moment-là, je parle avec les gens, je signe les disques. Et on parle de tout. Après, mais sur scène, je dis ce que je dis. Et en fait, ces gens-là me disent toujours, mais non, continue à parler. On a besoin de ça. Parce que ils sont un peu écœurés des médias, télé, journaux. Moi, je peux pas faire que ça. Je suis là pour chanter. Je suis là pour vivre de ma musique. Mais ma musique, elle est là aujourd'hui, en 2015, avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais tu sais, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai écrit des titres comme We All Have a Dream, inspiré du discours de Martin Luther King. Et celle-là, je l'ai écrite en 95, donc tu vois, ça fait
20 ans.
Voilà. Et dedans, elle commence cette chanson par It is time for justice, time for solidarity, time for truth, the world is full of refugees. Tu vois, il est temps de justice, il est temps de solidarité, c'est le temps de dire la vérité, le monde est plein de réfugiés. Je me suis surpris à relire les textes, je me dis mince.
Ils sont toujours actuels.
C'est comme si je l'avais écrite aujourd'hui.
Bob, est-ce que tu te sens d'abord dénonciateur de toutes ces injustices ou également porteur d'espoir ?
Je sais que je pourrais pas changer le monde avec mes chansons.
Mais justement, est-ce que tu te sens également porteur d'espoir dans ce sens-là ?
Je veux juste donner un petit espoir aux gens. Et après en plus, les gens bougent pas, tu sais bien. Les gens ont du mal parce qu'ils se disent, si je bouge, on va me foutre à la porte et j'aurai plus de boulot pour nourrir mes mômes.
Tu penses vraiment ça, hein? Tu penses qu'il y a des gens qui sont prêts à te faire taire?
Qui se taisent, oui.
Non, mais qui seraient prêts à te faire taire et à t'empêcher de t'exprimer à ce niveau-là?
Moi, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi je parle. Il m'est arrivé de dénoncer l'OFN. J'étais à Toulon, et justement sur la chanson dont je viens de te parler.
Il y a des électeurs du FN à Toulon, je savais pas.
J'ai vu 30 personnes quitter la salle au moment où je disais ça.
Voilà.
Parce qu'il y avait une grosse menace à l'époque, comme celle qui se précise de nouveau aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Voilà.
Tout ça fait partie d'un tout. On fait de la politique à partir du moment où on écrit une chanson comme Lost Territories, par exemple. Je sais pas si.
Exactement. Qu'est-ce que tu veux? Depuis le départ, moi, mon père était pas mal syndicaliste, même si son père était plutôt anarchiste.
Oui.
Mais c'était un anarchiste doux, mon grand-père. Mais là, il avait quand même appelé son fils libéraux, tu vois.
Oui.
Et libéraux, ça veut dire libre. Ouais. Et en fait, mon pauvre père, il n'a jamais été libre. Et moi, dans mon cœur, je lui dis toujours, moi je suis libre maintenant, papa, je fais ce que je veux. Donc des fois, j'en assume les conséquences.
La liberté a un prix, c'est très clair.
La liberté a un prix, mais je fais ce que je veux, donc c'est impayable, tu vois.
Voilà. Écoute, on peut parler également des musiciens qui t'accompagnent, parce que Jérémy à la batterie, hein, évidemment, Jérémy Piazza, voilà,
ouais.
Signalons-le.
Et de mon frère, ouais.
Gilles Mallet, guitare.
Ah ben lui il est là depuis Gilou, il joue avec moi depuis Vecantar de Little Bob Story, donc enregistré en 82, tu vois.
Donc ça fait une bonne petite trentaine d'années, hein, voilà, quand même.
Ouais, ça fait 30 et quelques années, 34, 33, je sais plus.
Il y a un garçon qui s'appelle Michello qui joue de l'harmonica. Tu sais que de temps en temps, il y a des gens qui écoutent la radio et même sur Internet. Et justement, sur le Facebook, Bob, il y a des gens qui réagissent en ce moment et j'aurais proposé de poser des questions. Voilà, j'aurais dit tout à l'heure, il y a une interview de Little Bob. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Il y a Claude Danick qui demande comment est-ce que tu as rencontré Mickey, ton harmoniciste?
Oh mais Mickey, ça date de longtemps, parce qu'il jouait en fait, Mickey jouait avec les Stoners, tu vois.
Oui.
Je sais pas si tu te souviens de ce groupe-là parisien qui jouait du rhythm blues.
Pas tout à fait, non.
Ouais, et ils avaient sorti deux ou trois albums, ils avaient fait notre première partie dans les années 80, tu vois, à l'époque de Too Young to Love Me et tout ça, 83, 84, 85, ils avaient même joué à Paris en première partie, à Brest... Et je sais que c'est un grand fan, Mickey, de J. Giles Band.
Oui, bah oui.
Qui est un des super groupes de blues, un peu plutôt boogie, rock'n'roll en même temps, tu vois, mélangé. Mm. Et de Magic Dick, l'harmoniciste, qui est habillé à peu près comme Mickey, tu vois.
Ouais.
Enfin, Mickey plutôt habillé comme lui. et puis après, il a joué longtemps quand il venait à Paris avec Johnny Saunders, tu vois. Il a accompagné Johnny Saunders.
D'accord.
Dont tous les punks et les amateurs de bon rock se souviennent. Et actuellement, à part moi, il joue aussi avec Dick Rivers, qui là est malade, donc il a annulé une tournée, des dates.
Qui vient de faire un album il y a quelques semaines d'ailleurs.
Il a joué avec lui. Sur les deux derniers albums, il y a un peu plus de quelques semaines, il y a peut-être deux ou trois mois là déjà.
Oui, oui.
Mais l'album, il est peut-être sorti maintenant seulement.
Il est sorti, je ne sais plus, vous avez fait rire.
Voilà, il a eu un problème, il est malade. Donc, sinon, il tourne avec moi. Il tourne avec un type qui s'appelle Gilles Ribérol, qui est un guitariste-chanteur qui est un fanat de la Nouvelle-Orléans.
C'est pas un garçon qui aurait écrit de rock'n'folk à l'époque aussi?
Mickey Blow, non.
Non,
Gilles Ribérol, oui, ouais, il a écrit dans rock'n'folk ou dans Best, je sais plus.
Oui, peut-être l'un ou l'autre d'ailleurs.
Ouais, ouais. Et donc, mais il a du mal à monter sur scène, Gilles, donc voilà. Mais sinon, c'est bien ce qu'ils font tous les deux. Et ça s'appelle Jumbo Layers, leur disque.
D'accord.
Voilà. Et sinon, il avait joué déjà avec nous à l'époque de Ringo Levio. Ringo Levio, donc en 87-88.
Dont on écoutait un extrait tout à l'heure en filigrane d'ailleurs, justement. Là, tiens d'ailleurs, écoute, Bob.
Ah ouais.
Riot in Toulouse. 1977, exactement. Bon, pour finir le tour des musiciens actuels des Bastards, il y a également Bertrand Couloum à la contrebasse. Alors ça, c'était peut-être une nouveauté pour toi d'être accompagné par un contrebassiste au moment de la formation des Blues Bastards, non?
Non, parce qu'il était là avant. Il était là. Lui, ça fait pareil, un peu moins que Gilou.
Ça fait quelques années.
Il a son discontinué depuis 91.
Ah,
et
putain,
la préparation de Lost Territories, il est dans Lost Territories, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça fait 24 ans qu'il joue avec moi.
Mais déjà à la contrebasse, c'est ça que...
Déjà à la contrebasse, de temps en temps il me dit tu veux pas que je prenne une basse? J'ai dit non, surtout pas. Parce que ça nous fait une différence remarquable par rapport à tous les groupes. Et c'était peut-être que ça, quelques petits problèmes avec l'ancien batteur de mon groupe, Little Bob, Nico, qui lui aurait préféré jouer avec un bassiste. Pour le rock, c'est peut-être mieux. Mais moi, pour moi, Bertrand, c'est pas seulement un jazzman, parce qu'il joue dans le big band de Christian Garros. C'est un mec qui est dingue de la musique, et plus ça devient fou, et plus il est content. Toi, il arrive sur scène, c'est un motard aussi, il arrive sur scène en pantalon de cuir. Et il joue sur sa contrebasse, il a branché une distorsion qu'on entend sur l'album sur plusieurs titres.
Mm-hmm.
Il joue avec l'archer aussi pour par exemple Sleeping in a Car, l'intro. Et c'est un musicien, c'est plus qu'un bassiste, c'est un musicien quoi. Et il s'entend comme un larron en foire avec Jérémy. C'est-à-dire que là, le basse-batterie comme ça, je crois que même à l'époque de Barbe Noire et Minot, au début de Little Old Story, j'avais pas une section rythmique aussi,
aussi soudée, peut-être.
Aussi soudée. Ouais. Voilà.
Tiens, on écoute Apache. Alors, la quasi-totalité des morceaux de l'album, c'est de la compo. Hein. Tu disais ton regret dans l'album précédent d'avoir fait peut-être un peu trop de reprises, je sais pas.
Ouais, même si c'était salutaire pour un peu se faire connaître dans le public.
Aussi, oui, non mais voilà. Et puis là tu inverses la vapeur. Roberto Piazza, oui. Signataire de presque tous les titres.
C'est pour ça que j'en suis content. C'est parce que j'ai écrit 10 titres et les deux covers, c'est des trucs, incroyables. C'est Zigzag Wanderer de Captain Beefheart.
Ouais, on l'avait
déjà repris Circumstances sur l'album précédent. Mm-hmm. Et puis Gilou, justement, le guitariste, le riffer rocker, qui est petit-fils de Keith Richards, il me disait depuis quelque temps, faut que tu reprennes Louis Armstrong, là. Il y a un titre, il m'avait proposé de Blues Are Brewing de Louis Armstrong.
Ouais, ouais.
Ah, évidemment, là, ce coup-là, pour l'album, je voulais des reprises qui sortent de l'ordinaire. Donc, j'ai été écouter Louis Armstrong et le morceau, je l'ai aussi entendu par Billy Holiday. Et là, dans ce cas-là, Billy Holiday, il y a pas, tu vois, tu peux pas lutter.
Et puis là, au niveau rythmique, voilà, on est en plein dedans. Il y a l'harmonica de Mickey par-dessus.
Ah ouais, l'harmonie, il remplace la trompette de Louis Armstrong et c'est super ce qu'il fait. Staring ahead and dreaming. And nights as lush as a lawn. You look kinda lonely, all by your only. There's nothing but the blues are brewing. The blues are brewing.
The blues are brewing. On peut écouter peut-être une autre version, si tu veux. Billy Holiday. Et bien sûr Louis Armstrong à la trompette. Là c'est quoi, c'est des 40 30 40
ouais,
40. 40, ouais. 40.
Et c'est beau quoi. Et nous on a essayé de salir un peu, mais pas trop avec la voix. Plutôt avec la guitare en distorsion, tu vois, des trucs comme ça.
Ouais.
Ah, c'est formidable, c'est beau comme tout. Mais bon, expliquer aux gens, parce qu'ils croient que je suis devenu amateur de jazz, je suis amateur de bonne musique.
Ben oui, non mais ça, de toute
et
façon...
Et le jazz, quand il est bon, il est bon, c'est comme les autres musiques, voilà.
C'est comme la cuisine,
il n'y a pas d'intellectualisation à fond dans ce que je fais. Moi, c'est le cœur qui parle, je suis à fleur de peau, c'est l'âme.
Mais c'est peut-être pour ça que tu plais au public, Bob, tu crois pas?
Oui, peut-être, certainement, parce que moi, regarde, avant, je montais sur scène, j'avais mes lunettes noires...
Ouais.
Aujourd'hui, peut-être par timidité aussi, parce que c'était bien d'avoir le look, mais moi, le look, je m'en suis toujours foutu, donc vu ma carrure.
Non, mais je crois que c'est ça, c'est ce qui a toujours caractérisé ton approche de la musique, ton approche des gens, c'est d'abord la sincérité, et puis tu triches pas, quoi. Je veux dire, tu vas voir un concert de
Little Bob. J'enlève mes lunettes sur scène, ouais. Je regarde les gens dans les yeux et c'est un bonheur.
The Blues Are Brewing. Il y a un dernier titre dont je voulais te parler, plus en particulier, au fil de cet album, c'est le tout premier. We Are The Blues Bastards. C'est quoi? C'est une espèce d'hymne que vous êtes fait?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. On va monter sur scène, c'est pas forcément le premier, parce que j'aime bien faire une balade avant.
Ouais.
Une balade blues, enfin bluesy, juste Gilou et moi, guitare et moi.
D'accord.
Et puis après on va attaquer par ça. Hey, 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 we gonna play some rock and roll. Ain't playing for the devil.
playing just for you. This tempo is inside me.
Il y a un son de guitare derrière, je sais pas comment ça a été travaillé. Il y a quoi, il y a des pédales d'effet particulières.
On a tout joué live. Attends, le studio où on était, c'est d'ailleurs en basse Normandie.
Oui.
Pas à la limite avec la Sarthe. Hein, il est pas loin d'Alençon. Et en fait, on a joué. Il y avait une cabine pour la contrebasse, une cabine pour la voix. La guitare, l'ampli était dans une pièce à part.
Mmh.
On a mis la batterie au centre et on était tous là. Et avec le pauvre Mickey, il me dit, moi je peux pas jouer live. Il me dit, comme ça tu joues après, parce que comme les harmonicistes sont toujours un peu. Ils en mettent partout, tu vois.
Oui.
Il dit, mais comme ça on va pouvoir contrôler un peu plus ce qu'il va faire. Et en fait, on a joué, tu vois, pour te dire, la voix, je n'ai retouché que trois voix.
D'accord.
Trois chansons, le reste c'est du live en studio.
C'est carrément du live en studio.
Voilà, et puis après, bon, on a fait quelques re-re pour ajouter les guitares qu'on voulait.
Mmh.
Ben Gilou, non, mais il y a lui, tu sais, Gilou, c'est pas un mec compliqué. Où il rajoute de la distorsion, un petit peu de reverb pour le twang du début de chaque couplet, là.
D'accord.
Non, c'est du pur, mais par exemple la contrebasse, elle a fait beaucoup d'effets avec la contrebasse en distorsion et avec l'archer, tu vois, pour nous faire des bruitages incroyables. Il y en a un peu partout, quoi. Et après, tu sais, après tout, l'enregistrement global avec avec la voix et les instruments, on y a pris que 6 jours, 7 jours.
D'accord, oui, relativement.
Et on est resté que 15 jours en studio, on a mixé le reste du temps.
Relativement rapide tout ça.
Voilà, relativement rapide.
Vous aviez déjà tout le matériel prêt avant d'aller enregistrer, ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont créées sur place pendant ces 15 jours ?
Non, parce qu'on savait qu'il fallait qu'on fasse vite, tu sais, j'ai plus les budgets de IMI et de Lost Territories.
Ouais.
Et donc, il fallait qu'on soit assez, disons, rapide.
Mm-hmm.
Parce que ça coûte cher de trimballer un groupe aussi isolé pour pas être avoir les visites des potes et des amis et des femmes et des. Donc on s'est isolé, on avait loué un gîte, loué le studio. Mimi faisait l'intendance à manger le café, le thé, à boire, les bouteilles de vin et de bière.
Voilà.
Et donc on a tout fait en 15 jours. Et avec aux manettes, on a notre ingénieur du son qui m'a fait un boulot de dingue. C'est Tony Rock, ouais.
Ah, j'ai bien qu'on peut citer, ouais.
Il a fait un super boulot et c'est lui qui nous fait le boulot sur scène. Donc ça, cet album, il est aussi bien à lui qu'à nous, tu vois. Et nous, on avait préparé avant, pendant 2 mois, on avait préparé l'album à raison de quelques semaines où il y avait 4 jours de répète ou d'autres 3, pendant à peu près un mois et demi, 2 mois. Et donc depuis l'été dernier, on n'avait pas tourné, et moi j'ai écrit en septembre, on a travaillé après.
D'accord.
Voilà, et voilà le résultat.
Le résultat, il s'appelle Howling, et puis comme tous tes albums depuis une petite quinzaine d'années maintenant, ils sont distribués par Dixie Frog Records. Cet album Howling qui va compter, je pense, dans ta discographie, c'est vrai que on ne compte plus les albums de Little Bob. Si, tu les comptes toujours ?
Ouais, il y a 15 albums studio,
ouais.
5 live, et puis il doit y avoir au moins 5 albums de compilation dans le best-of aussi. Les compilations, des fois, des fois on en a fait parce que c'était nécessaire, un moment de creux, tu vois. Et il me manque peut-être un best-of de Little Bob Story.
Ça peut se faire.
Voilà.
Ça.
Mais là, il y a des rééditions qui paraissent, là. Tu vois, par exemple, les Anglais de Ace Records, qui est un label de réédition.
Oui.
En fait, il est géré par les gens qui tenaient Chiswick avant,
mm-hmm.
qui était le label anglais qui avait sorti mon deuxième album en Grande-Bretagne.
D'accord.
Et donc, ils ressortent Off the Rails, c'est-à-dire le Living in the Fastlane anglais. Avec en plus 5-6 titres live tirés d'un live au Dingwalls à Londres en 78, début 78, où il y a donc ces titres, ils vont le ressortir, mais ils vont le ressortir en CD.
Bien sûr, comme toutes les compilations Ace Records. Bob, on arrive quasiment au terme de cette deuxième heure. On va poursuivre un peu. On va juste dire au revoir aux gens parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir écouter en rediff. Dans 2 secondes, c'est la fin, c'est le jingle. Hein.